Un nouveau rendez-vous de Wagon Livre ce soir autour d'un thème qui n'est pas si fréquent et qui n'est pas très souvent représenté dans notre émission littéraire sur Radion, c'est le sport. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des auteurs qui travaillent sur le sport. Et Dieu sait pourtant si les livres sur le sport, le football, le rugby existent. Et là, en face de moi, se trouve Jean-Michel Marchand. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir.
Marchand. Merci à vous. Vous êtes l'auteur d'un livre absolument remarquable. Remarquable à la fois parce que on imagine qu'il est le fruit d'un travail de recherche, de documentation et de collecte de photographies et d'informations. On imagine ce travail donc important. Vous le confirmez puisque c'est un livre que vous avez mis 7 ans pour arriver à ce beau résultat.
Oui, je dirais même que j'ai mis pratiquement toute ma vie depuis que je suis gosse. J'ai mis une bonne quarantaine d'années à faire ce livre, puisque finalement, petit, je suis tombé dans la marmite à la fois du vélo et puis de la musique. Alors j'hésitais entre le maillot jaune de Eddie Merckx, entre les héros que pouvaient être ces héros un peu martyrs comme Luis Ocaña, ces gens-là qui avaient chuté gravement dans le Tour de France, et puis mes héros musicaux qui étaient plutôt des gens comme les Rolling Stones ou les groupes de l'époque quand j'étais gamin ou adolescent. Donc ce sont un petit peu deux choses qui pourraient paraître contradictoires, et pourtant ce sont deux disciplines, je dirais, un peu d'exception, puisque au départ elles sont faites d'excès. C'est-à-dire que le vélo, c'est quelqu'un qui va suer tout, qui va suer ses tripes, qui va suer toute son âme, qui va se donner à fond pour un maillot à poids, pour un maillot d'une jeune femme sur un podium. Suivant le...
On ne gagne pas beaucoup d'argent dans le cyclisme, contrairement au football.
On en gagne beaucoup moins. Aujourd'hui, quand même, depuis l'avènement des années Bernard Tapie, depuis l'internationalisation du vélo, on en gagne beaucoup plus. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est un sport de c'est un peu sexe, drogue, rock'n'roll. Il y a des excès dans le vélo, on le voit bien, qu'il y a maintenant beaucoup d'affaires qui sont révélées au public. Autrefois, c'était beaucoup plus gentil quand même, même si on pouvait parler de dopage, il était beaucoup plus convivial, entre guillemets. C'était un petit jaune d'œuf avec du Porto, ça prêtait pas vraiment à... C'était pas très très important, très conséquent. Aujourd'hui, on a vu quand même des affaires beaucoup plus machiavéliques et beaucoup plus calculées. Il n'empêche que ce sport est magnifique. Il y a une poésie dans le vélo, comme il peut y en avoir autour.
Il y a une poésie dans le vélo.
Oui, il y a une poésie dans le vélo. Il y a une poésie dans le vélo.
Expliquez-nous un peu. Alors, à quoi tient la poésie dans
La poésie du vélo, elle peut tenir à...
Elle est dans le fait que l'on traverse les villages de France, on sillonne comme ça en pleine nature.
Elle est un peu comme le...
C'est cette harmonie avec la nature que l'on retrouve dans l'effort physique.
Elle est un peu comme le drame antique grec, mais dans un décor naturel. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des héros, des gens qui vont être sublimés, et puis d'autres qui vont être complètement déchus, qui vont sombrer. Ce sera la défaillance, et puis pour les autres, ce sera les honneurs, les lauriers, la gloire, un certain temps, et après on tombe de son piédestal. Regardez les images de cyclistes sur les vieilles revues, comme elles sont belles, quoi. Elles sont aussi belles que celles d'acteurs de cinéma ou de rockstar. C'est type Hugo Coblet qui se recoiffe sur son vélo. Vous avez cette photo de Fausto Coppi, la Dame Blanche, voilà.
Cette élégance virile.
Il y a une élégance, il y a le côté, il y a le geste du pédaleur, les beaux mollets, les jambes rasées, enfin l'odeur du camphre. Et puis après, il y a tout d'un coup ce coureur qui va aller au bout de lui-même, au bout de ses forces, jusqu'à en crever ou presque, pour grimper 5 cols d'affilée, pour descendre à tombeau ouvert une pente pendant une demi-heure, et puis après il faut encore pédaler pour aller jusqu'à l'arrivée. Du premier au dernier, chaque coureur a une espèce d'héroïsme qui Oui, qui dégage beaucoup de poésie. Et en plus, il y a la poésie du braquet quand le coureur est tout seul. Et 1, 2, 3, 4, allez, 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a également ce bruit, le cliquetis des vitesses qui passent, ou du dérailleur.
Le rythme, la musique aussi. Voilà. Donc finalement, on comprend maintenant.
Si vous avez l'occasion, lisez le livre de Jean-Bernard Pouy, qui est un auteur quand même très, très connu, qui s'appelle 53-14. Et qui est un magnifique ouvrage autour du vélo, qui a été joué d'ailleurs par Podalides au théâtre, et qui a été repris sur France Culture. Enfin bon, bref, Jean-Bernard Pouy a fait un ouvrage magnifique autour du vélo, sur un héros du Tour de France, où il parle justement de ce côté musical, la musique du sport, la musique du vélo. Et le vélo est vraiment un sport très très photogénique, notamment jusqu'à l'avènement des années publicité, c'est-à-dire où les hommes sont devenus, depuis que les coureurs doivent se barder de publicité un peu partout.
Et autres locaux, voilà. Oui.
Et surtout, port du casque, de lunettes, de choses qui sont certes importantes pour la sécurité, mais qui permettent un petit peu moins au public de décerner son héros dans un peloton multicolore. Il y a une espèce de procession là quand on va passer ce peloton dans la campagne. Enfin, c'est vrai que il y a vraiment une poésie du vélo de par ce justement le fait aussi que le vélo soit un sport accessible à tous et notamment
les femmes sont peu présentes quand même.
Sont peu présentes, mais au bord de la route quand il y a une course de vélo, tout le monde est là.
Oui.
On emmène les enfants pour voir passer le Tour de France, la caravane, toute cette grande
tout un folklore aussi.
Oui,
c'est un folklore. Oui.
Et puis c'est gratuit. Et puis on voit jamais comme dans les enceintes de stade. Pourtant j'aime beaucoup les autres sports tels que le rugby ou le football, mais on voit jamais quelqu'un avoir de gestes déplacés. Et pourtant on est là, tout près du champion, tout près du héros, tout près des acteurs. Et respect. En cela, le vélo a quand même quelque chose de particulier et de gens qui vont faire don d'eux-mêmes. Quoi. Il y a une espèce de don de soi, une espèce de sacrifice, une espèce de... C'est très proche également de la religion. Quoi. C'est une espèce de héros magnifié. Et
une sorte de culte.
Une sorte de culte,
comme ça. Oui,
puis
vous parlez du beau mollet, de la belle cuisse, une sorte d'érotisation aussi de l'homme.
Absolument.
Oui, ça me paraît évident, légèrement en sueur.
Et puis, juste avant le départ, les odeurs d'huile, de camphre mécanique, le bruit du... Pof, tout d'un coup, boum, une explosion, c'est un pneu qui a éclaté ou un boyau. Enfin bref, le vélo, c'est plein de belles images, de belles odeurs, c'est plein de belles choses. En fait. Et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à témoigner de ce que pouvait être le cyclisme sur un siècle, c'est-à-dire de 1900 à 2008 dans le département de la Nièvre.
Sans la gravité.
La suite de Wagon Livre ce soir avec notre invité Jean-Michel Marchand pour son livre intitulé « Figure du cyclisme nivernais 1900-2008 » avec une préface de Bernard Thévenet, un très bel ouvrage, 290 pages couleur, plus de 800 photos, 250 portraits, des palmarès, des résultats, des anecdotes, signé donc de Jean-Michel Marchand qui est ce soir devant les micros de l'émission littéraire de Radion. Un livre, comme je le soulignais, richement illustré avec le charme de photos anciennes, Jean-Michel Marchand. Et ça, c'est vraiment, c'est véritablement exceptionnel.
Quand on prend une photo noir et blanc, le photographe avait moins le droit à l'erreur que maintenant, quoi. Avec nos appareils numériques, des fois on sort de belles photos, mais on en a fait 40 en rafale pour avoir la bonne. À l'époque, avec son appareil, son petit boîtier carré, son Leica, le photographe choisissait un endroit où il devait faire la photo et il gaspillait pas la pellicule comme on peut gaspiller les cartes mémoire aujourd'hui. Donc je trouve qu'on a de très belles images et justement ce noir et blanc qui renforce un petit peu la dimension à la fois artistique mais aussi poétique de... du champion, du héros, hein, du héros malheureux ou du héros
ou sur lequel on s'apitoie, ouais, voilà. Effectivement, donc, il est le perdant.
Donc, ce qui fait qu'il y a effectivement beaucoup d'images, des images sépia, des images noir et blanc, qui, voilà, c'était un long travail en tout cas pour réunir tous ces témoignages auprès des familles, auprès des proches, puis auprès des intéressés qui sont encore de ce monde, et puis auprès des acteurs actuels, puisque je balais de 1900 à 2008 et en 2008 il y avait encore il y a encore heureusement quelques bons coureurs qui osent faire un sport tellement décrié puis tellement difficile.
Alors le livre est sorti en novembre 2008 avec le soutien du Conseil général de la Nièvre.
Alors c'est la réédition.
C'est la réédition qui est soutenue, mais ce qui est extraordinaire, alors là Jean-Michel Marchand, vous me l'aviez confié, 1700 exemplaires vendus, ça me paraît quand même pour de l'auto-édition où l'on a risqué aussi un peu de son argent personnel.
Oui, on a risqué beaucoup de son argent personnel. C'était un pari. Donc, pari gagné, puisque voilà, ça m'a permis de refaire un petit additif l'année d'après, en 2009, sur les coureurs actuels ou sur certains que j'aurais pu oublier dans la première édition. Donc, En fait, quand vous dites, ouais, c'est bien, 1700, je suis pas devenu riche grâce à ce bouquin, hélas pour moi, enfin, tant mieux finalement.
290 pages couleurs, plus de 800 photos, 250 portraits, des palmarès, des résultats, des anecdotes, Jean-Michel Marchand. On comprend que 7 ans de travail, 7 ans de recherche. Est-ce qu'il existait déjà un ouvrage dans la Nièvre, vous êtes parti d'un modèle où vous avez tout créé,
ça a été un peu, ça s'est fait de façon un peu. Où
aller chercher les photos, les infos, comment s'y prend-on?
Je m'y suis pris tout simplement parce que depuis que je suis gosse, je garde beaucoup de documents autour de plein de choses, hein, que ce soit dans le domaine de la musique ou du sport, hein, que ce soit le sport cyclisme, mais j'aime aussi beaucoup la moto, j'aime aussi le rugby, le foot, je gardais beaucoup de documents, donc ça m'a permis déjà d'avoir une trame, et j'avais aussi quelques documents photographiques que j'avais amassés ça et là, quand j'étais gosse, je faisais des photos sur les courses de village qu'il y avait dans mon coin, donc j'avais quand même pas mal de champions dans la boîte.
C'est vraiment de la passion, parce que aujourd'hui les adolescents ils gardent des photos de leur chanteuse ou chanteur favori.
Je faisais ça aussi. Mais les cyclistes, ils étaient vraiment, je les identifiais, il n'y avait pas beaucoup de rockstars dans ma région à Brinon-sur-Beuvron, donc je photographiais plutôt les cyclistes, quoi. Donc ça s'est passé comme ça, et puis après je suis allé voir tous ces gens que je connaissais. J'ai modestement fait un tout petit peu de vélo moi pendant une petite dizaine d'années, donc j'ai côtoyé ces familles de cyclisme, la grande famille cycliste. Et souvent on retrouve depuis des générations, on était coureurs cyclistes dans les années 20, après il y a eu le fils dans les années 40-50, et puis les petits-fils, et puis les arrière-petits-fils.
Donc, il y aurait une hérédité, voilà, il y aurait une hérédité, de l'activité
cycliste. Oui, une espèce de...
pour de battre Davis, toujours, je vais battre mon père. Voilà. Peut-être qu'il y a cela, une sorte de vengeance pour tuer le père.
Voilà, on est d'accord. Donc, après, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui m'ont aiguillé. Il y a eu quelques guides aussi. Je me suis appuyé sur des anciens parce qu'au départ, j'étais parti en me disant, je vais faire depuis que je suis gosse, donc je vais faire des années 70 à aujourd'hui. Et puis quand j'ai rencontré les anciens, ils m'ont dit, ah oui, mais alors c'est dommage que tu parles pas d'un tel et d'un tel. Tu sais, dans les années 60, celui-là a été vraiment.
Donc là, vous notez des noms et
je
voilà.
Je note des noms, puis je me dis oui. Puis après, on me dit dans les années 50. Donc finalement, j'ai remonté le siècle et je suis allé jusqu'à trouver dans une espèce de bible cycliste internationale le nom de tous les coureurs français. Je regardais leur lieu de naissance et j'ai trouvé par exemple Julien Métron, né en 1881 à Dompierre-sur-Nièvre, et je m'aperçois après que ce brave Julien Métron a participé au second Tour de France de l'histoire en 1904, qu'il en est venu à bout, à la cinquième place, et puis ensuite il participe à tous les Tours de France, aux grandes épreuves, Milan-San Remo, etc., Tour de Belgique.
Il devient professionnel.
Il est professionnel, oui, déjà. Il est déjà professionnel
dans
en 1904. Et en 1910, il gagne même une étape du côté de Nice. Voilà. Donc ça, c'est le plus ancien. Et j'ai, pour l'anecdote, j'ai retrouvé une image de ce monsieur en mettant la main sur sa fille adoptive dans les Charentes. Elle avait 88 ans en 2003 et elle m'a dit, ah oui, papa faisait du vélo. Il en parlait plus beaucoup parce qu'il aimait pas trop se vanter, etc. J'ai pas de photo de lui à vélo, mais j'en ai une de lui en beau costume et tout. Donc je lui dis, envoyez-la moi, je vais la scanner, vous la retournez. Voilà. Enfin, c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement pour chaque personnage. Donc trouvez-lui. Après, dans les années 20, j'ai trouvé l'histoire de ce volailler de Nevers qui a
donc, il s'appelle Garbi.
Qui s'appelle Garbi.
G-A-R-B-Y.
Y, oui. Mm-hmm. Qui s'appelait Jean Garbi et que tout le monde surnommait Biel. Alors, parce que sans doute, on avait fait l'amalgame. C'est comme ça que je l'explique. C'est ce que me disaient son fils et son petit-fils. Garbi, Gabriel, on l'appelait Biel. Bon, voilà. Enfin, le fameux Biel fait le Tour de France en 1924 grâce à une souscription relayée par le journal local de Nevers, et puis il termine 39e en ayant très peu d'assistance dans un Tour de France des années héroïques.
Donc c'est un Tour de France rudimentaire.
Un Tour de France très rude, d'autant plus qu'il emprunte toutes les régions de France, hein, le Nord, l'Ouest, il emprunte les Pyrénées, les Alpes, avec d'assez longues étapes. On n'est plus dans les tout premiers tours où là on faisait 500-600 km d'une traite. Là, on est quand même sur des distances un peu plus raisonnables, mais qui dépassent allègrement les 200-250 km. Et Garbi, le Neversois, finalement s'en sort. Il est même repéré par Albert Londres, qui écrit, à ce moment-là, il est envoyé par le Parisien, il prépare son ouvrage à travers ses chroniques quotidiennes, il prépare son fameux ouvrage, Les Forçats de la Route, et il s'est pris d'amitié un peu pour ce jeune Neversois, là, à qui il offre d'ailleurs un boyau un jour, pour qu'il puisse réparer le soir après être arrivé presque à la nuit, à la suite d'une étape où il a dû crever 5 fois dans la journée. Et il parle de lui, de Garbi, qui dévale le Tourmalet, dans un Tour de France, oui, effectivement, remporté par l'Italien Bottecchia, mais au cours duquel les frères Pellissier ont abandonné, ont réglé leur compte vis-à-vis de l'organisateur Henri Desgranges, en prenant pour témoin le chroniqueur Albert Londres. Donc ils ont un petit peu abusé de la naïveté d'Albert Londres en déclarant des choses un peu sensationnelles, mais c'était pour régler des comptes avec Albert Londres, avec Henri Desgranges, qui était quand même un organisateur intransigeant, voire despote, et qui tolérait pas le moindre écart au règlement. Notamment, les coureurs devaient partir avec
c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez
avec des vêtements
Jean-Michel Marchand, oui. Nous donner quelques-unes de ces règles extrêmement sévères qui conditionnait quand même un Tour de France.
Dans les années 20,
qui
oui, c'était simple.
Dans des conditions extrêmement difficiles.
Les coureurs n'avaient pas droit à l'assistance mécanique, ils devaient réparer eux-mêmes, se débrouiller comme ils voulaient, mais il fallait réparer le vélo et terminer avec le même vélo l'étape. Hein, aujourd'hui, on voit les coureurs changer de monture 2-3 fois au cours d'étape. Il y a un mécanicien qui saute de la voiture, qui les remet en selle, qui les pousse. Là, ils n'avaient absolument pas le droit de faire cela. Il était obligé de porter, s'il partait par exemple avec un seul maillot et que l'étape en cours d'étape il y avait des événements climatiques qui faisaient qu'ils étaient frigorifiés, ça ferait, ils n'avaient pas le droit de porter autre chose que s'ils avaient au moment du départ, ils devaient avoir la même chose à l'arrivée et sans changement de tunique, si je puis dire. Donc, c'était vraiment très 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 rude. Quoi.
Mais pourquoi cette sévérité du règlement ?
C'était pour, je sais pas, pour surhumaniser, enfin, sur-héroïser l'épreuve qui avait besoin de sensationnel. En fait, le Tour de France, il a été créé par le magazine Lotto, qui est devenu après L'Équipe, mais Henri Desgranges en était le directeur. Et c'était pour relancer un petit peu les ventes du magazine qu'il avait créé cette épreuve. Une épreuve de vélo pour relancer l'auto, quoi. Finalement, c'était assez incongru, mais ça s'est fait comme ça. Il connaissait pas grand-chose au vélo, en fait. Il avait jamais souffert sur un vélo, visiblement.
Et vous, avez-vous souffert sur un vélo ?
J'ai souffert sur un vélo, mais alors on souffre ni modestement, ni difficilement. On souffre tous sur un vélo. J'ai simplement couru de façon très, très modeste au niveau régional. À vélo dans les années 90. Voilà. Mais je continue de pédaler pour mon plaisir quand il fait beau.
Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio Anne ce soir avec Jean-Michel Marchand pour son livre « Figure du cyclisme nivernais », une somme de documents, de dates sur les hommes qui ont finalement donné ces lettres de noblesse au cyclisme nivernais.
Oui, ben quand j'étais gosse, je vous disais, je découpais les coupures de presse, je connaissais ça, puis je me faisais mes petites courses à moi, j'avais mes petits coureurs, alors les coureurs en métal c'était les professionnels avec des petites billes dans le tas de sable, et puis les coureurs en plastique c'était les amateurs, mais j'aimais bien quand même les amateurs parce qu'il y avait les gars de Clamcy, il y avait les gars de Cône, alors les gars de Clamcy je me souviens ils étaient en bleu, rouge c'était Decize, jaune c'était Nevers, vert c'était le deuxième club de Nevers, bleu et blanc c'était un autre club, enfin bref, et puis il y avait les noms dessous, et puis je me suis dit un jour... ces courses-là, dans tous nos villages, il y en avait 10, 20 par week-end, et maintenant on arrive dans les années 2000 où il y en a 20 dans l'année, ou au guire plus. Et je me dis quand même, ce sont des choses qui se perdent. On a eu de grands champions, on a eu les frères Martinez, les fils Martinez, on a eu Yvézard, on a eu Jean-François Bernard, bien sûr, qu'on pourrait considérer comme le champion nivernais de tous les temps, à ce jour. Et puis on avait toutes ces courses de village, toute cette émulation qui était créée, toute cette ambiance de fête, parce que chaque village organisait sa fête foraine, et avec la fête foraine, il y avait la course cycliste. Maintenant, on fait des vide-greniers, enfin, on fait autre chose. On n'est plus dans la même époque. Il y a d'autres loisirs, les jeunes ont peut-être pas envie, et je peux les comprendre, de monter sur une bicyclette pour aller se faire mal au guibole le dimanche, sachant qu'il faut s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, et qu'on peut pas dire je vais faire juste la course du dimanche. Alors qu'on peut prendre sa planche de skate, ou on peut prendre un ballon de basket, puis s'amuser un petit peu comme ça, voilà, ou on peut aussi rester devant la télé avec une console de jeu. Bon, les choses ont changé. Donc, je voulais simplement, sans jouer les moralistes ni quoi que ce soit, c'est simplement un témoignage d'une époque,
un
hommage à tous ces héros, à cette époque qui on va le dire, révolue.
Alors vous avez donné quelques noms de grands champions, vous parlez de Jean-François Bernard.
Oui.
Alors Jean-François Bernard, je ne veux pas faire non plus, c'est grâce à vous que j'ai quelques-unes de ces informations.
Mais non, je
ne suis pas assez au courant. C'est sûr que la mort de Fignon, des suites de son cancer, m'a touché, parce qu'adolescent, Fignon, le blond avec ses petites lunettes rondes, c'était quand même un personnage. Bon, Richard Viringue, vous voyez, c'est des noms pour moi qui me... Bernard Hinault, le blaireau, bon, c'est des noms qui me restent. Après, moi, ma culture du vélo est beaucoup plus limitée.
Mais vous vous imaginez bien que si, par exemple...
Quand t'adore, on est des noms.
Arriver à l'été, on vous dit qu'il n'y a plus le Tour de France, ça vous ferait quelque chose.
Mais je ne passerai pas une après-midi entière à regarder le Tour de France.
Mais deux,
Tour
oui.
De France. En revanche, en revanche, j'ai une admiration... vraiment très forte pour ces hommes qui pédalent à travers notre pays. Moi, je suis très attaché à mon pays, je l'aime énormément, et je vois, ce qui me touche, c'est aussi toute cette foule au bord de la route, rassemblée, la montée à l'Alpe d'Huez, par exemple, c'est extraordinaire de voir ces touristes étrangers, ces Françaises et Français qui se donnent rendez-vous le long de la route pour applaudir ces hommes. Et je trouve qu'il y a une espèce de communion, où une France populaire, mais enfin, quoi qu'elle est de tous horizons sociaux, mais la France se retrouve autour d'un événement qui, effectivement, marque l'été sportif, quoi. C'est une sorte d'union nationale autour du vélo.
Et puis le vélo, qui a été un petit peu décrié de par son côté, justement, populaire, voire un peu... Le coureur cycliste, à une époque, c'était un peu le neuneu, quoi. On interviewait, oui, je suis content d'avoir gagné, oh ben, je suis déçu d'avoir perdu. J'ai fait deuxième, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Il n'y a pas que ça, quoi. On a quand même des gens... bon, Laurent Fignon était le premier un petit peu à intellectualiser les choses, mais il n'y avait pas que lui. Il y a des coureurs cyclistes qui, surtout de nos jours, ont fait de brillantes carrières scolaires avant de devenir professionnels. Puis il y a aussi, surtout, le plus bel hommage, il a peut-être été rendu par les écrivains, par les intellectuels qui se sont penchés de plus près sur ce sport, justement, synonyme un peu d'iconographie vraiment inoubliable, enfin marquante. Et je ne sais pas, pour en citer quelques-uns, on peut parler de Antoine Blondin,
oui,
par exemple.
Oui, je pense à Blondin, qui a suivi le Tour de France. Oui, tout à fait.
Qui n'était jamais monté sur un vélo, mais qui a magnifié ce sport à travers des écrits incomparables. Vous avez également Jean-Paul Brouchon, Philippe Brunel, une excellente plume, notamment spécialiste du cyclisme italien, Pierre Chani, Olivier Dazac, Eric Fotorino, vous avez Christian Laborde. Je repense également à des gens comme Louis Nousserat, qui malheureusement a terminé justement renversé par une voiture lors d'une sortie cycliste. Jean-Paul Olivier, Jean-Bernard Puy, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà ces gens-là. Et puis des chanteurs, des artistes, enfin moi qui aime beaucoup la musique, j'étais très heureux quand, pour le générique du Tour de France, une année, c'était le groupe allemand Kraftwerk, de musique électronique allemande.
Moi, je me suis arrêté à Yves Montand, à Bicyclette. C'est un peu ringard, peut-être.
Mais il y a d'autres choses. Vous avez par exemple Dick Annegarn qui a fait un magnifique morceau sur un coureur cycliste portugais qui malheureusement est mort des suites d'une chute au début des années 80, Joaquim Agostino. Vous avez des groupes français comme Les Vents Passent, un groupe qui marche bien depuis le rock alternatif, ça fait une vingtaine d'années, dont le chanteur Didier Vents Passent est complètement fondu de vélo. Régulièrement, il fait du vélo, il suit les étapes du Tour de France, il a écrit un morceau en hommage à Marco Pantani, on a écrit un autre sur Laurent Jalabert. Il y a des gens comme Fred Poulet, comme le regretté Alain Bachung, qui avait fait du cyclisme, dans sa jeunesse et qui a écrit un morceau qui s'appelait L'arrivée du Tour sur l'album Rio Grande. Christophe Miossec, qui est un chanteur breton quand même assez connu, qui a écrit un morceau qui s'appelle Le Critérium. Enfin, j'en passe. Jean-Louis Murat, qui est un grand fan de vélo, qui pédale régulièrement, qui a écrit Le Col de la Croix-Moran. Et des groupes plus alternatifs comme les Tugs, qui ont écrit El Gruppetto ou Biking. Enfin bref, le vélo, c'est pas simplement le côté, c'est bien aussi, mais c'est pas que Yvette Horner ou Yves Montand.
Eh bien, Jean-Michel Marchand, puisque vous parlez d'Yvette Horner, la reine de l'accordéon, qui est devenue une véritable icône populaire depuis ces années où de 52 à 63, elle précédait les coureurs du Tour de France pour donner à chaque étape un récital devant des milliers de spectateurs. Nous allons écouter un titre d'Yvette Horner, un titre d'ailleurs qui vous convient bien, Jean-Michel Marchand, puisqu'il s'agit de Passion, une valse interprétée par Yvette Horner. Excellente soirée à l'écoute de Radio. On se retrouve d'ici quelques minutes avec notre invité, Jean-Michel Marchand, pour son livre « Figure du cyclisme nivernais ». Thank you.
Toujours à l'écoute de Radion, la suite de Wagon Livre, votre escale littéraire, proposée et présentée par Yannick Petit, chaque mercredi à 21h, sur votre radio locale.
À quelques semaines du début du Tour de France, sur Radion ce soir, dans votre émission littéraire Wagon Livre, nous accueillons Jean-Michel Marchand pour son très beau livre, un livre de passionné et un livre passionnant, intitulé « Figure du cyclisme nivernais 1900-2008 » avec une préface de Bernard Thévenet, un ouvrage qui comporte 290 pages couleurs, plus de 800 photos, 250 portraits, des palmarès, des résultats et des anecdotes. Et Jean-Michel Marchand, donc, a fait retirer cet ouvrage avec le soutien du Conseil général de la Nièvre.
Alors, revenons à Jean-François Bernard. Parlez-nous un peu de Jean-François Bernard, parce que c'est, il est dans votre livre, dont je rappelle le titre, hein, « Figure du cyclisme nivernais », donc signé de notre invité ce soir, Jean-Michel Marchand.
Alors, Jean-François Bernard, c'est ce garçon un peu timide de Châtillon-en-Bazois qui joue un petit peu au football parce qu'il a un oncle qui était un des meilleurs buteurs du football nivernais dans les années 60. Et finalement, un jour, il se met à faire du vélo, mais timidement, pendant un an ou deux ans, il est largué. Et puis un jour, il gagne une course, et puis la semaine d'après, il gagne, et puis il se met à gagner les courses chez les cadets. Il a 16, 17 ans, il gagne chez les juniors, et puis très vite, on se dit qu'il a un potentiel un peu au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. Et Jean-François Bernard, voilà, moi, à l'époque, je suis fait un petit peu moins parce qu'on a le même âge et à ce moment-là je faisais un peu plus de moto, mais je suivais quand même ça, j'y suis revenu parce que tout d'un coup il a remporté le championnat de France amateur en Alsace en partant quasiment dès le départ, en faisant toute la course seul en tête. L'année d'après il est professionnel et puis en 1987 il porte le maillot jaune du Tour de France sans un incident mécanique et puis une erreur un peu de stratégie de son directeur sportif. Il aurait dû gagner le Tour de France. Cela dit, il a gagné de nombreuses très grandes courses, des étapes sur le Tour de France, il en a gagné 3, il a gagné des étapes sur le Tour d'Italie, il a gagné Paris-Nice en 1992, enfin un très grand champion, Jean-François Bernard, ce gamin timide qu'on voyait un petit peu lâché au début des courses et qui finalement est devenu l'un des meilleurs Français et qui, sans quelques malheurs, notamment de santé, aurait eu un rayonnement encore beaucoup plus conséquent. Mais quand il est devenu équipier de Miguel Indurain, lorsque celui-ci a gagné ses 5 Tours de France, je crois qu'aussi il a accompli de beaux exploits. C'est les années d'ailleurs où il a gagné Paris-Nice, où il a gagné le Critérium International, où il a toujours été présent sur la scène internationale. Ce qui est très bien aussi, c'est que Jean-François aujourd'hui s'investit dans le cyclisme local et tente de redonner une dynamique au cyclisme nivernais qui en a bien besoin. Et il est président du comité d'organisation d'une grande course qui existe depuis 1968 et qui s'appelle le Tour du Nivernais-Morvan. Et Jean-François est quelqu'un de très important, non seulement parce qu'il y en a du monde dans ce milieu, mais aussi parce qu'il sait de quoi il parle et qu'il est capable de transmettre son savoir à la nouvelle génération. Il est capable aussi de rendre peut-être à ce sport ce qu'il lui a donné. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a négocié parfaitement sa reconversion, puisqu'il est un brillant consultant, un brillant commentateur sur les ondes de France Info, France Inter, ou aussi sur Eurosport à la télévision.
Alors vous aussi, vous savez de quoi vous parlez. Vous pourriez être un excellent consultant, à mon avis, pour la presse ou la télévision. Non, vous n'avez jamais songé
J'ai fait un petit peu de radio. Aujourd'hui, je me contente surtout d'écrire et puis de... Bon, quand on me le demande, pourquoi pas, mais bon, voilà.
Actuellement, donc, vous travaillez au service communication de la ville de Nevers.
Oui, hein, pour le magazine Nevers Sambot, pour lequel je travaille de façon polyvalente, aussi bien en termes de maquettes que de reportages ou de travail photographique. Donc, voilà, sinon... Je suis de près des activités sportives et musicales toujours, et je fais toujours un petit peu de musique à côté de ça.
Jean-Michel Marchand, parlez-nous s'il vous plaît de Mario Martinez et de ses fils.
Mariano
Martinez, pardonnez-moi, et de ses fils.
Alors c'est une grande famille cycliste.
Là on est encore dans l'hérédité.
Oui, mais le vélo c'est souvent des histoires quand même de famille, et les Martinez... Ils ont souffert, hein, parce que le père était venu en France comme ouvrier, enfin commis de ferme. Il est reparti combattre le franquisme en Espagne. Il est...
Donc on est dans les années entre 36 et 39.
Voilà. Hein. Et il est revenu après en France et ses enfants ont souffert un peu de ce déracinement et puis de cette vie difficile qu'ont connu leurs parents. Donc c'est des gens qui ont le sens de la valeur des choses, quoi, et qui donc font très attention à tout ce qu'ils font. Il n'y a pas d'écart, quoi. C'est un peu les ascètes du vélo. Et Mariano a vraiment été très rigoureux durant toute sa carrière. Ça lui a joué des tours d'ailleurs, parce qu'il était tellement méfiant de tout qu'il ne s'adaptait pas forcément bien dans toutes les équipes. Mais cela dit, ça a été un coureur exceptionnel qui a remporté deux étapes sur le Tour de France, dont une d'anthologie au Cladadet à Saint-Lary-Soulan en 1978. C'est une année, l'année où Bernardino remporte son premier Tour de France. Il gagne d'ailleurs cette étape, il me semble, devant Bernardino. Et puis, il ramène à Paris le fameux maillot blanc à pois rouge, le maillot de meilleur grimpeur. C'est l'un de ses faits d'armes, quand même, avec un championnat du monde quelques années plus tôt, en 1976, à Montréal. 74 ou 76, là j'ai un petit doute. En tout cas, Mariano Martinez termine troisième d'un championnat du monde en 74, c'est ça, derrière Eddy Merckx et Raymond Poulidor. Et souvent on voit encore cette image lorsqu'on parle de la carrière d'Eddy Merckx. C'était quand même un des temps forts d'une carrière monstrueuse, celle du roi Eddy Merckx, du cannibale. Et Mariano Martinez était là quand même dans ces années-là. Alors ensuite, donc, il a deux fils, il a une fille également qui a fait un petit peu de vélo, qui était brillante, mais après elle est devenue maman et elle a arrêté le vélo. Mais ses deux fils, Miguel Martinez, qui a été champion de France de cyclocross, qui a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde de VTT, mais aussi et surtout champion olympique à Athènes en 2000 de VTT, et puis le plus jeune Yannick qui a une vingtaine d'années maintenant et qui est promis un bel avenir puisqu'il fait partie des meilleurs nationaux.
Eh bien, poursuivons notre longue balade au cœur du peloton qui traverse les ondes de Radion. Ce soir, vous êtes bien sur votre radio locale dans l'émission littéraire Wagon Livre et nous avons le plaisir d'y accueillir ce soir Jean-Michel Marchand qui évoque le livre consacré aux figures du cyclisme nivernais, un ouvrage publié avec le soutien du Conseil Général de la Nièvre, avec une préface de Bernard Thévenet, un très bel ouvrage, volumineux, un travail de passionné, 290 pages couleurs, plus de 800 photos, 250 portraits, des palmarès, des résultats, des anecdotes. Jean-Michel Marchand qui est donc ce soir devant nos micros et que nous nous réjouissons d'avoir parmi nous.
Alors, dans votre galerie des figures du cyclisme nivernais, on rencontre un abbé, l'abbé Le Sage. J'aimerais que vous nous parliez de l'abbé Le Sage parce que c'est une figure pittoresque, originale. Oui. Dans le livre, c'est pas vraiment un cycliste en fin de compte.
C'est pas un cycliste.
Il aime le vélo.
Il aime le vélo. Il s'appelle l'abbé Le Sage. Il porte pas forcément très bien son nom d'ailleurs. Dieu bénisse son âme. L'abbé Le Sage, c'était l'abbé des coureurs.
Ouais. On est à quelle période là?
Alors l'abbé Le Sage, c'est dans les années 60 jusqu'au milieu des années 80. Quoi. Son aura aura même dépassé les frontières de notre département, puisqu'il sera commissaire sur de grandes épreuves comme Paris-Nice. Et l'abbé Le Sage était un personnage haut en couleur, quoi, qui n'avait pas du tout le langage du curé, qui avait plutôt un langage peu châtié et qui aimait c'était un bon vivant, quoi. Pour résumer, pour pas dire plus.
Jovial.
Voilà, oui, toujours prêt à faire la fête, mais qui célébrait quand même ses offices. Des fois, il se dépêchait parce qu'il disait, attention, il y a la course à 5 heures, là, dépêchez-vous de rentrer dans l'église, allez, on s'en va, c'est bon, c'est fait. Sous la soutane, il y avait le maillot d'un champion que le champion en question lui avait offert. Il était l'ami de tous les grands champions.
Plus original que Don Camillo, à la limite.
Ah, plus original que Don Camillo, oui.
Alors, il y a un personnage en photographie, et c'est vrai, Jean-Michel Marchand, vous me le faisiez remarquer, il ressemble étrangement à Rasputin. C'est un cycliste qui s'appelle Pactole.
Pierre Pactole, oui. C'est coureur cycliste nivernais dans les années 20, qui était vraiment un personnage, oui, atypique. Quand j'ai vu ces photos aux archives départementales, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Ce cycliste avec ses chaussures de cuir, avec les lacets qui montaient à mi-mollet, c'était assez étrange. Et puis ce visage, quoi, à la Rasputin, on pourrait même pour certains parler du Christ sur un vélo, c'est Pierre Pactole, marchand de cycle à Nevers, et qui établira des records de l'heure sur une petite piste, un petit vélodrome qu'il y avait en banlieue de Nevers à l'époque, et puis surtout qui sera un personnage original jusqu'au bout, puisqu'il se définit comme anarchiste. Il sera l'ami un temps de Romain Rolland et il se présentera même à la députation dans les années fin des années 20, début des années 30 comme candidat anarchiste, quoi. Mais c'est ce cycliste, c'est vrai qu'à la radio il est difficile de l'écrire, mais imaginez aller dans votre Larousse ou vous regardez sur internet, vous tapez Rasputin et vous verrez Pierre Pactole, imaginez qu'il est sur un vélo.
Enfin, Pierre Pactole s'est-il véritablement enrichi grâce au cyclisme? Pas sûr.
Non, bien sûr, il n'a pas décroché. Pas.
Jean-Michel Marchand. On arrive à la fin de notre entretien agréable et érudit. Vous m'avez passionné, hein. Franchement, je suis impressionné par tant de passion et de connaissances. Mais
c'est bien, un nouveau licencié pour le cyclisme bourguignon.
Je ne peux m'empêcher de vous demander votre avis par rapport, tout de même, me semble-t-il, aux affaires de dopage récurrentes qui salissent de plus en plus le monde du cyclisme, même si... En ayant discuté avec un auteur que vous avez rencontré, J.P. Virenne, qui est quand même une haute figure scientifique, puisqu'il était directeur d'un laboratoire de recherche au CNRS, s'il vous plaît. Il est également artiste et il a eu une carrière de semi-professionnel sous un autre nom, puisque c'était dans son univers scientifique pas tellement raisonnable de faire du cyclisme. Mais J.P. Virenne me disait que le dopage avait toujours existé.
Oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, autrefois on parlait d'un œuf dans un verre
de Porto
dans le Porto ou dans le cognac, la petite goutte de champagne, le bon, c'était bon enfant. Après, ça a quand même, c'est quand même monté crescendo. Il y a eu les amphétamines dans les années 60, les anabolisants un peu plus tard, et puis après les transfusions sanguines, et puis le PO, et puis bon, c'est pas non plus, il faut pas se voiler la face, ça existe, et c'est devenu un business, et c'est devenu quelque chose de très orchestré, avec des médecins de très haut niveau pour encadrer tout cela. Donc, on peut se dire que d'un côté, s'il y a des médecins, les coureurs sont peut-être exposent un petit peu moins leur vie. Il n'empêche qu'il y a des accidents, il n'empêche qu'il y a des coureurs cyclistes qui perdent complètement la raison. On a vu Vandenbroucke, on a vu Pantani qui termine dans des conditions sordides. Non, je pense qu'il est important de lutter contre le dopage, et on ne peut pas se permettre de laisser faire certains pays, alors que nous, par exemple, en France ou dans certains pays, on établit une espèce de code de déontologie, mais aussi un suivi longitudinal, et on impose aux cyclistes un suivi draconien de leur qualité de vie, et surtout de ce besoin d'être clair du début de l'année à la fin de la même année. C'est-à-dire qu'un coureur cycliste peut être contrôlé à n'importe quel moment. S'il décide d'aller en vacances quelque part, il est obligé de le signaler. S'il décide d'aller au cinéma, il peut être contrôlé au moment où il va au cinéma. Donc, dire qu'il y a quand même beaucoup moins de Français qui trichent, et je pense que les affaires de dopage qui arrivent sont malheureusement le reflet d'un regardez les coureurs, je vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais regardez les coureurs qui se sont fait prendre récemment, ce sont pas des coureurs français ou pas des coureurs de certains pays. On voit désormais peu d'Allemands, on voit désormais peu de Français pris au contrôle. Je dis pas que ça arrivera plus, mais il est important de lutter pour que les parents aient envie de laisser leurs enfants pratiquer ce joli sport et qu'ils se disent pas, voilà, je les emmène à l'abattoir plutôt que prévu. C'est quand même et puis il en va de la dignité, de l'équité de ce sport, et puis tout simplement de la santé. Le sport, au départ, à la base, c'est quand même un peu se dire on est en bonne forme parce qu'on fait du sport. Alors, je sais bien que le sport de haut niveau détruit plus l'être humain qu'il ne le dorlote, mais les héros peuvent rester quand même humains. Je veux dire, la défaillance, c'est ce qui faisait la beauté du sport avant. On voyait des coureurs qui défaillaient, qui s'arrêtaient au bord du chemin épuisés parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et aujourd'hui, moi, je préfère revoir des courses à 36 ou 37 ou 38 de moyenne plutôt qu'à 45 ou 50. Ce serait plus humain. Et je préfère voir un coureur qui, à l'arrivée, s'effondre et que, quand on l'interview, on entend le souffle court encore et qu'il y a un filet de bave au coin à la commissure des lèvres, plutôt que le gars qui est frais, qui respire sans ouvrir la bouche.
Mais on aime les surhommes et on les veut beaux et pas baveux.
Mais ils peuvent être beaux et baveux.
Peut-être.
Ouais, hein, donc, non.
Pour repenser en fait certaines images.
Le dopage, je suis à fond pour la lutte contre le dopage, et il ne faut pas se réfugier derrière l'argument que ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est devenu quand même une machine quand même un peu trop diabolique, et qui surtout discrédite beaucoup ce sport. Et je sais bien, on va me dire, il n'y a pas que dans le vélo, c'est vrai, il y a sans doute d'autres sports qui sont autant contaminés par ce fléau, mais c'est pas une raison, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est pas bien là-bas qu'il faut pas que ce soit bien ici. Donnons l'exemple.
Alors,
puis soyons, je veux dire, il faut y croire, quoi. C'est un joli sport, mais c'est un sport pour lequel chacun doit avoir les mêmes chances, quoi. Même si à la base il y a des différences de morphologie, des différences de génétique, etc. On peut tout étaler sur la table, mais non, faisons un maximum d'efforts pour préserver la santé, l'équité et la crédibilité du vélo.
Alors, pour se réconcilier avec le monde du vélo, rien ne vaut que de feuilleter et de lire et de découvrir le livre de notre invité, Jean-Michel Marchand, livre qui s'intitule « Figure du cyclisme nivernais ». Pour se procurer votre livre, si on habite dans Lyon, comment faire ?
Mais il suffit de le commander soit, ou alors pour ceux qui sont pas très loin de Clamecy, vous pouvez aller dans certaines librairies de Clamecy.
Bon, on peut donner les noms.
Je les ai pas en tête, mais j'espère qu'ils m'en voudront pas.
Chez Monsieur. La librairie du Beuvron, le Millefeuille.
Oui, sans doute. Et puis vous pourrez sinon le commander via Internet. Vous tapez figure du cyclisme nivernais, vous tomberez sur un site qui vous proposera la vente par correspondance. Voilà.
Figure du cyclisme nivernais de Jean-Michel Marchand, 290 pages couleurs, plus de 800 photos, 250 portraits, des palmarès, des résultats, des anecdotes, et donc de 1900 à nos jours, et ça concerne Nevers. Et c'est pour les passionnés, c'est un livre de passionnés, pour les passionnés, encore que, effectivement, on retrouve cette beauté un peu obsolète, rétro, de vieilles photos de cyclistes nivernais.
Nivernais, ou ayant sévi sur les routes nivernaises. Voilà.
Jean-Michel Marchand, merci à vous d'avoir répondu à ces questions pour Radion et pour l'émission littéraire du 90.5.
Merci et longue vie à cette belle émission.
Notre émission touche pratiquement à sa fin. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont il a été largement question ce soir dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, Figure du cyclisme nivernais, signé Jean-Michel Marchand, ouvrage disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez donc le commander sans difficulté. Vous pouvez également contacter l'auteur à l'adresse postale suivante, Jean-Michel Marchand, 2 rue Simon Marion, 58000 Nevers, ou prendre contact avec lui par internet, par mail, mcjm.marchand, marchand avec un D à la fin, @orange.fr. Et puis vous pouvez bien sûr toujours prendre contact avec Radion ou avec moi-même au 06 75 55 52 69 pour toute information nécessaire à la commande du livre de notre invité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes musicaux de Radion. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous aurons l'occasion d'entendre un entretien avec Pierre Assouline, un entretien qui a été enregistré à Dijon, alors que Pierre Assouline avait été invité par le Club des écrivains de Bourgogne, Pierre Assouline, qui évoquera son dernier ouvrage, Vie de Job, paru aux éditions Gallimard. Merci de votre fidélité. Je rappelle que toutes les émissions Wagon Libre sont disponibles sur le site internet en podcast, www.radion.fr. À très bientôt. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt que vous portez à cette émission littéraire. Au revoir à toutes et à tous.